Ceci, docteur, c'est mon laboratoire.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Des cerveaux. Moi, je n'avais encore jamais vu autant de cerveaux sortis de leur crâne. Ah, ne les touchez pas! Pourquoi est-ce que vous avez tous ces cerveaux? J'aimerais pouvoir extirper les pensées. Où est-ce que vous vous procurez tous ces cerveaux?
Comme tout le monde, à la morgue.
Les curieux sont sur RTL.
Bonjour Laurent Cohen.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue.
Soyez le bienvenu, vous êtes neurologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, chercheur à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière. Avec vous, on va explorer les failles de notre cerveau, c'est notre curiosité, ce moment où il flanche et ce moment où en fait il nous joue des tours. On va commencer avec une histoire très concrète. Monsieur, on l'appellera Monsieur P, donc c'est juste, on donne la première lettre des noms de famille. Pourquoi vient-il vous consulter ?
Alors ce monsieur-là, si je me souviens bien, c'est quelqu'un que j'ai vu deux fois à une vingtaine d'années d'intervalle. La première fois, il était assez jeune, il avait une vingtaine d'années, et il avait eu une espèce d'accident vasculaire. Et il avait gardé de cet accident vasculaire l'incapacité complète à reconnaître les visages. C'est-à-dire que il pouvait voir devant lui, il voyait normalement, il reconnaissait les mots écrits, il reconnaissait les couleurs, il reconnaissait les objets, mais quand il voyait le visage de quelqu'un, eh bien, il était incapable de savoir qui c'était, même le sien. C'est-à-dire que si le matin, en se regardant dans la glace, il disait « Tiens », il savait que c'était lui, puisque c'était une glace, mais le visage ne lui disait plus rien.
Et alors, donc ça, pendant des jours et des jours, des années et des années, il n'a
absolument
pas reconnu
ni son visage, ni celui de ses proches. Ça n'a pas vraiment évolué, et je l'ai revu, je vous dis, une vingtaine d'années plus tard. Et quand je l'ai revu, je lui ai demandé, est-ce que ça va mieux? Est-ce que ça a changé, etc.
Il m'a répondu, vous a reconnu déjà?
Ah non, bien sûr que non. Il savait. Non, mais il n'a pas reconnu mon visage, mais il est capable de prendre rendez-vous, de reconnaître mon nom quand il est écrit, de voir que je suis docteur parce que j'ai une blouse blanche, etc., etc. C'est juste le visage qui pose un problème. Et donc quand je l'ai revu, à ce moment-là, il avait une quarantaine d'années, et il m'a dit, voilà, moi j'ai des enfants, j'ai un fils qui joue au foot. Et quand je vais le voir jouer au foot, eh bien la seule manière que j'ai de le reconnaître, c'est parce que je sais qu'il joue comme gardien de but. Il est goal, et donc je dis, bah voilà, le goal, c'est mon fils. Mais à part ça, des petits gars de 12 ans avec un maillot, impossible de les distinguer les uns des autres.
Mais la question, Laurent Cohen, c'est si on ne reconnaît pas le visage de son fils, est-ce qu'on peut continuer de l'aimer?
Ah bah, éprouver oui, des sentiments pas. Je suppose. Alors ce qui est vrai, c'est que la reconnaissance d'un visage et les sentiments qui vont avec peuvent être séparés l'un de l'autre. Un exemple, c'est ne plus pouvoir reconnaître les visages, mais continuer à reconnaître, à avoir des sentiments. Mais le contraire existe aussi. C'est aussi des histoires que je raconte dans le livre. Il est possible de reconnaître un visage, mais ne plus avoir les sentiments qui vont avec. Et dans ce cas-là, parfois, les patients vous disent « C'est très curieux, ma femme, eh bien... » Il y a un sosie qui la remplace. De temps en temps, je reconnais bien que c'est ma femme, mais en fait, c'est pas elle. Je sais que c'est pas elle. Je sais que c'est un sosie qui a été remplacé. Dans un cas comme celui-là, c'est un peu le contraire de l'histoire de Monsieur P. C'est quelqu'un qui reconnaît le visage de sa femme, mais qui, par ailleurs, n'ayant pas de ressenti d'émotion, eh bien, l'interprète comme voulant dire « Ah, ma femme a été remplacée par un sosie, de temps en temps ».
Laurent Cohen, ce livre, c'est Le parfum du rouge et la couleur du Z, le cerveau en 20 histoires vraies. C'est publié chez Odile Jacob. Ça s'appelle comment cette maladie?
L'incapacité à reconnaître les visages, ça s'appelle la prosopagnosie. Ça s'appelle la prosopagnosie.
C'est quoi l'étymologie?
Alors, ça vient du grec, comme tout le jargon de neuropsychologie. Mm-hmm. Prosopon en grec, ça veut dire visage. Et agnosie, c'est l'absence de connaissance. Donc, la prosopagnosie, c'est l'incapacité à reconnaître les visages.
Alors, vous nous avez décrit la pathologie. Maintenant, est-ce qu'on sait, vous disiez pour ce monsieur qu'il avait fait un accident vasculaire cérébral quelques temps auparavant? C'est quoi? C'est une zone précise de son cerveau qui a été endommagée?
Tout l'arrière du cerveau sert à la vision. C'est-à-dire que tout l'arrière de votre cerveau vous sert à reconnaître les choses qui sont autour de vous, un verre, une tasse, une éponge, etc. Mm-hmm. Et à les localiser dans l'espace, et un petit peu en bas, à droite, etc. Et à l'intérieur de ce système qui sert à reconnaître les objets, eh bien, il y a des sous-régions, des petites zones qui sont spécialisées dans telle ou telle catégorie d'objets. Mm-hmm. Il y a, par exemple, une zone qui sert à reconnaître les couleurs, et si elle est endommagée, on voit en noir et blanc. Il y a une zone qui sert à reconnaître les mots écrits, et si c'est endommagé, on ne peut plus lire. Et il y a une zone qui est dans le dessous de votre hémisphère droit, donc un petit bout de votre système visuel, qui sert à reconnaître les visages. Comment? Et donc, quand c'est endommagé, ouais. par exemple, ouais. à la suite d'un accident vasculaire, eh bien, ça vous rend prosopagnosique.
Comment on peut être aussi précis? C'est-à-dire, vous voyez l'activité du cerveau, on peut observer l'activité du cerveau, c'est ça?
Alors, pendant longtemps, à partir du 19e siècle, on a pu étudier des patients, des gens qui, à la suite d'un accident, avaient perdu telle ou telle faculté. Ensuite, quand ils étaient morts, on allait voir leur cerveau, on le couperait en tranches et on ouais. dit « Ah, il a perdu telle faculté, par exemple reconnaître les visages, et son accident était à tel endroit, donc c'est cette région qui est importante ». Maintenant, la situation est très différente maintenant, parce qu'on a tout ce qui est l'imagerie fonctionnelle cérébrale, mm-hmm. qui permet de regarder dans le cerveau de quelqu'un de bien portant, en train de faire marcher sa tête, quelles sont les régions qui entrent en jeu, ce que font les différentes régions. Par exemple, cette petite région des visages, eh bien, on peut la voir en mettant quelqu'un dans une machine d'IRM, en lui faisant voir des images de visage, des images de maison, des images de couleurs, des images de ce que vous voulez. Et si on compare les activations par ces différentes catégories d'objets, eh bien, on va voir qu'il y a une région, un ensemble de régions, qui s'active plus quand cette personne voit des visages que quand elle voit d'autres genres de choses.
Est-ce qu'il y a beaucoup de Français qui sont victimes ou qui souffrent de prosopagnosie?
Alors, je ne pense pas que les Français soient ni plus ni moins exposés que les autres nationalités.
Non, mais vous avez forcément un pourcentage, je veux dire. Non, alors, on peut dire un pourcentage mondial, si vous voulez.
Les accidents font apparaître une prosopagnosie chez un adulte à la suite d'un accident cérébral, c'est rare. C'est très rare. Ce qui est moins rare, probablement, c'est ce qu'on appelle la prosopagnosie de développement. C'est-à-dire qu'on arrive un peu au même résultat, c'est-à-dire l'incapacité à reconnaître les visages, mais chez des gens qui n'ont eu aucun accident et qui sont comme ça depuis toujours, qui se sont développés comme ça quand ils étaient enfants. Et cette prosopagnosie de développement, eh bien, c'est un peu de la même famille que les autres troubles 10, les anomalies du développement qui incluent la dyslexie, la dysphasie, dyspraxie, etc., etc.
Mais c'est handicapant socialement, on a l'impression d'être un goujat, oui. on ne reconnaît jamais les gens.
Et,
alors,
oui.
on,
et est-ce que ça fait souffrir aussi?
Alors ça pose un problème, ça pose des difficultés évidemment. On imagine qu'il y a certaines professions pour lesquelles ça pose des problèmes. Enfin, si vous regardez sur internet, vous allez voir qu'il y a des gens très célèbres et extrêmement successful qui sont prosopagnosiques.
Brad Pitt par exemple.
Par exemple, Brad Pitt.
Si vous en avez d'autres,
J'en aurai d'autres, plein, mais je ne vous le dirai pas.
Ah bon.
Non, donc, ça veut dire que ça n'empêche pas de réussir. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça n'empêche pas de reconnaître les gens. Ça empêche d'utiliser leur visage pour les reconnaître. Mmh. Mais vous pouvez parfaitement dire, ah bah oui, je reconnais sa démarche, ses vêtements, sa coiffure, son odeur,
sa voix. On développe des moyens de s'en sortir.
Sa voix, on a plein d'indices. Alors on n'en a pas toujours conscience. Normalement, on utilise tous ces indices ensemble. Mmh. Là, il en manque un. Mais il reste tous les autres.
RTL.
Je vous ai sûrement déjà parlé de mon état.
À chaque fois qu'on se revoit, oui.
Sidonie Bonnec.
Depuis ma blessure, je mémorise plus rien.
Thomas Hugues.
Tout s'efface au fur et à mesure.
Amnésie ?
Non, c'est pas de l'amnésie, j'ai perdu la mémoire immédiate. Si notre conversation se prolonge, j'aurai bientôt oublié comment elle a débuté. Et quand nous nous reverrons, j'aurai plus aucun souvenir.
La curiosité est un vilain défaut.
Quelle est la dernière chose dont tu te souviennes ?
Ma femme.
C'est beau.
En train de mourir.
Extrait du film Memento, qui donc raconte l'histoire de cet homme qui perd la mémoire et qui veut résoudre le mystère du meurtre, de la mort de sa femme. Les mystères du cerveau, c'est justement ce qui nous passionne dans La Curiosité avec Laurent Cohen, neurologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, chercheur à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière. Et alors, on s'appuie sur des cas que vous avez évidemment rencontrés et des patients que vous avez aidés. Voici cette dame, Madame D, on ne donne que les initiales, qui rentre dans votre cabinet. De quoi se plaint elle? Que voit-elle?
Alors, c'est une dame qui elle avait à peu près 80 ans, c'est une ancienne professeure dans l'enseignement supérieur et qui était extrêmement inquiète parce que elle voyait des choses qui n'étaient pas là. Alors, c'était parfois des choses assez simples, c'est-à-dire qu'elle voyait ses carottes râpées, effectivement, ça je m'en souviens, décoller de sa table. C'est la première chose qu'elle avait vue, décoller de sa table et aller se coller au plafond. Et puis parfois, ça pouvait être des choses beaucoup plus compliquées. Par exemple, elle avait traversé Paris en voiture, c'était pas elle qui conduisait, et elle a vu des chevaliers en armure défiler dans les rues, un troupeau de bœufs sortir des jardins du Sénat.
C'était pas le carnaval?
C'était pas le carnaval. Ouais. C'était pas le carnaval. Donc tout ça, évidemment, l'inquiétait beaucoup. Et elle se disait, est-ce que je suis en train de devenir folle? Est-ce que je suis en train de perdre la tête?
Mais même pendant la consultation, elle voit.
Alors,
c'était pas permanent,
mais ouais. Effectivement, ça revenait par moments. Et pendant que je lui parlais ou qu'elle me parlait, elle m'a dit, vous savez, docteur, je suis en train de voir pousser sur votre visage une longue barbe noire et luisante.
Ça devait.
Oui, ça doit être.
C'est des angoisses terribles, non? Ouais, j'imagine quand ça. On ressent
oui,
ça.
Oui,
et
oui.
Comment elle le vivait?
Elle le vivait avec inquiétude, mais comme c'était une femme bien à l'esprit bien carré, eh bien, elle savait que ce n'était pas vrai.
C'est un nom, ça, docteur, ces hallucinations visuelles.
Oui. Alors dans ce cas particulier, alors c'est des hallucinations, effectivement. Alors les neurologues parfois les hallucinations dont on sait soi-même que ce sont des hallucinations, on appelle parfois de ça des hallucinoses, mais enfin ça change pas grand-chose au problème. Et ce genre d'hallucination, ça s'appelle le syndrome de Charles Bonnet.
Qu'est-ce qui lui est arrivé à Charles Bonnet?
Alors à lui, il lui est pas arrivé grand-chose, ouais. Mais il a écrit, c'était un philosophe et un naturaliste du XVIIIe siècle, et en 1760, je crois, il a décrit ce qui était arrivé à son propre grand-père. Et son propre grand-père, qui était un vieillard sage et sympathique, eh bien, qui s'était fait opérer de la cataracte quelques années auparavant, eh bien, avait exactement ce que je vous décris là, c'est-à-dire qu'il voyait sur ses murs des plantes poussées, des animaux, des gens, toutes sortes de choses inexistantes, tout en sachant que ce n'était pas la réalité. Et c'est vrai que ce syndrome de Charles Bonnet, il faut qu'il y ait deux conditions qui soient remplies pour que ça se produise. D'une part, ça ne vient que chez des gens relativement âgés. Et deuxièmement, il faut avoir les yeux malades. Il faut avoir des problèmes visuels qui viennent des yeux. Un glaucome ou n'importe quoi.
Donc on voit mal, le patient voit mal.
Le patient voit mal, il est relativement âgé. Et chez lui peuvent se développer ces hallucinations, parfois très très riches.
Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cerveau essaye de recréer des images que les yeux ne lui donnent plus. Alors ça,
oui, c'est ça l'idée.
C'est un peu ça.
C'est ça l'idée. Mais en fait, toutes les images qu'on voit, même si on est parfaitement bien portant, tout ce que je vois, ce que vous voyez en ce moment, c'est des choses qui sont construites par le cerveau. Alors le cerveau reconstruit ces images en utilisant ce qui entre par vos yeux, mais en utilisant aussi ce qu'il sait déjà sur le monde en général, sur ses souvenirs, tous ses a priori. Et ces deux sources d'informations, ce qui vient des yeux et ce qui vient d'avant, eh bien se mélangent. Et ça nous donne l'image qu'on a du monde.
Par exemple, quand cette patiente qui a donc des hallucinations visuelles vous voit avec une barbe, vous pouvez nous voir sur rtl.fr, vous êtes imberbe et vous l'étiez sans doute à l'époque. En tout cas, vous êtes bien rasé. Vous êtes bien rasé. Est-ce que ça veut dire qu'elle ne vous voyait pas bien, vous ne voyez pas bien votre visage? Et donc, elle, comme le jeu qui est, vous savez, où on trouve différents accessoires pour le visage, elle a, son cerveau lui a dit, bah tiens, peut-être que le médecin a une barbe.
Exactement. C'est-à-dire que le cerveau sait comment est fait un visage, déjà. Et il a juste l'image qu'il a de mon visage en utilisant ce qui vient des yeux. Et quand ce qui vient des yeux est très imprécis, très flou, et bien le cerveau, d'une certaine manière, est laissé à lui-même. C'est un petit peu comme quand on rêve la nuit. C'est-à-dire, quand on rêve, on a des images très riches, très complexes, très intéressantes, alors qu'on a les yeux fermés. Autrement dit, dans les images du rêve, tout vient de l'intérieur. Tout vient des souvenirs, tout vient d'avant, tout vient des a priori. Dans le syndrome de Charles Bonnet, par exemple, il y a un mélange. Il y a un mélange de ce qui vient d'avant et de ce qui arrive des yeux en plus ou moins bon état. Ouais.
Alors, est-ce que ça peut se soigner, sachant que vous nous dites que ça touche des personnes plutôt âgées ou des personnes qui ont des problèmes de vision?
Alors, c'est quelque chose qui n'est pas très rare. C'est surtout les ophtalmologistes qui rencontrent ça, plus que les neurologues. Et à ma connaissance, quand le phénomène est là, il ne s'en va pas si facilement. Et dans trois quarts des cas, ça dure au moins 5 ans. Donc, c'est quelque chose qui s'installe et qui est là. Et pour ce qui est du traitement, à ma connaissance, il y a pas mal de traitements qu'on peut essayer, toutes sortes de médicaments qui calment un petit peu l'activité du cerveau, mais qui marchent pas de façon systématique, ça dépend des gens, il y a pas mal de choses qu'on peut essayer, il n'y a pas un traitement reconnu général de ce syndrome de Charles Bonnet.
Est-ce que si par exemple on entend mal, ça peut provoquer le cerveau aussi, peut pallier ce manque d'informations et nous jouer des tours?
Oui. Il existe un peu l'équivalent dans le domaine de l'audition, c'est-à-dire que chez des gens là encore plutôt âgés et qui sont sourds cette fois, qui n'entendent pas bien, eh bien, on peut avoir des hallucinations auditives, dont là aussi les gens savent a priori que c'est pas la réalité.
Et vous avez un exemple, je sais pas.
Oui, quelque chose que je crois que c'est même une histoire que je raconte dans le livre qui vient d'un de mes collègues. d'une dame qui entendait assez souvent des petites chansons de son enfance, Petit Papa Noël, toutes sortes de musiques comme ça, remontant à très longtemps, qui venaient faire intrusion comme ça dans le monde qu'elle entendait.
Vous êtes-vous déjà demandé ce qui peut bien se passer dans la tête des autres ? Moi, je le sais. Enfin, je sais ce qui se passe dans la tête de Riley. RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Je m'appelle Tristesse.
Oh, bonjour Tristesse. Je m'appelle Joie.
Bon,
excuse-moi. Tu permets, je vais arranger ça.
D'accord.
Et ça ne faisait que commencer. Le quartier cérébral allait devenir un hall de gare.
Extrait de ce film d'animation Pixar, Vice Versa, on est dans le cerveau d'une petite fille, Riley. Nous aussi, on se balade dans les coulisses de notre cerveau et on découvre qu'il peut nous jouer de sacrés tours. C'est ce que nous dévoile notre invité Laurent Cohen, neurologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. On va saluer maintenant un de vos patients, Laurent Cohen, c'est Monsieur O, ou plus exactement Madame O, parce que Monsieur O est en prison.
Oui, effectivement, la première fois que je l'ai vu, je ne l'ai pas vu en fait, c'est sa femme qui est venue me voir, parce que son mari était en prison. Il était en prison parce qu'il empruntait des voitures. Alors emprunter des voitures, à ma connaissance, ce n'est pas prévu au code pénal, non. On dit qu'on vole des voitures. Mmh. Mais lui, il les empruntait, il montait dans une voiture, il trouvait une voiture avec les clés sur un parking, et puis il la prenait, il allait faire un tour pendant quelques kilomètres, il la laissait en plein champ, voilà, n'importe où. Et puis il recommençait de temps en temps à faire ça. Et donc ça lui avait valu des problèmes avec la justice. Et en réalité, lui-même et sa femme avaient observé que ce comportement à la fois interdit et répétitif, c'est toujours la même chose, il ne volait pas autre chose que des voitures, eh bien, était apparu à la suite d'un accident cérébral. Il avait eu une rupture d'anévrisme, c'est-à-dire une petite artère qui se rompt dans l'avant du cerveau, juste au-dessus des yeux.
Oui.
Hein, et depuis ce moment-là, il avait ce comportement de temps en temps, quand il était surtout un peu déprimé, un peu anxieux, eh bien, il buvait un verre d'alcool, ça lui levait peut-être un peu ses inhibitions. Il sortait, il cherchait une voiture, il prenait la voiture, il roulait à droite, à gauche, et il laissait la voiture.
Et il a été condamné donc à 5 ans de prison.
Oui,
mais ça veut dire qu'il n'y a pas un médecin, un bon neurologue comme vous,
bah finalement,
pour dire que ce gars était malade ?
Ou son avocat n'y a pas pensé, ouais. J'en sais rien. Bah, mais...
Finalement, si. Et puis j'ai connu d'autres cas du même genre. Par exemple, un homme qui était un bon père de famille, tout à fait inoffensif. Et là, je change quelques détails pour les besoins de l'anonymat, mais qui, à un certain moment, a commencé à étrangler des chiens. Voilà, il sortait, il cherchait des chiens, il les étranglait.
Incroyable.
De façon répétée, il en a étranglé pas mal des chiens. Et là aussi, il y avait une explication neurologique qui était différente.
Qui était liée à un accident aussi ?
Non, qui était liée à une prise médicamenteuse. Il y a certains médicaments qui, chez certaines personnes, provoquent des comportements répétitifs, compulsifs.
Et pourquoi les chiens ? Il y a une explication dans son histoire ?
Pourquoi les chiens plutôt qu'autre chose ? Je ne sais pas.
Et là, pourquoi les voitures plutôt qu'autre chose ?
Qu'est-ce qu'il y avait avec les voitures ? Là, dans ce cas-là, on peut imaginer une explication. Ouais. C'est-à-dire que c'est un monsieur qui travaillait auparavant dans une usine de construction automobile. Et son travail, c'était, il avait toujours aimé les voitures, son travail, c'était, à la sortie des chaînes de montage, de prendre les voitures et de les essayer, et puis d'aller les garer. Et là, il est parqué sur le parking de l'usine. Ouais. Donc, il était dans le milieu et il avait une motivation personnelle, un goût personnel pour les voitures. Mais le caractère pathologique, c'est le fait que c'était répétitif, qu'il ne pouvait pas s'empêcher, d'une certaine manière, de le faire.
Donc, c'est compulsif, c'est ça, Laurent Cohen ?
Oui, c'est compulsif. C'est-à-dire, c'est quelque chose, un besoin d'agir contre lequel on n'arrive pas à lutter. Et effectivement, c'est... Les comportements répétitifs, comme ça, faire tout le temps la même chose sans beaucoup d'utilité, c'est quelque chose qu'on voit après des lésions de l'avant du cerveau, de tout à fait l'avant du cerveau, pour différentes raisons. C'est qu'on a besoin de notre avant du cerveau pour fabriquer des comportements nouveaux, adaptés aux circonstances.
Est-ce qu'on peut utiliser la chirurgie pour soigner ? Je pense à ça, parce que vous avez tous vu, peut-être vu cette image d'une femme qui était en train de se faire opérer, qui était violoniste et qui jouait pendant son opération pour que les chirurgiens ne frappent pas la zone de ses mains et l'empêchent de continuer de travailler. Est-ce qu'on peut opérer ce...
Alors là, je suis hors de mon domaine précis, ouais. Mais tout de même, il y a quelque chose qui est apparenté. C'est pas la même chose, mais qui est apparenté au cas de ce monsieur qui volait des voitures, c'est ce qu'on appelle effectivement les TOC, les troubles obsessionnels compulsifs, où des gens, par exemple, se lavent les mains 200 fois par jour, retournent 15 fois vérifier si la porte est fermée, etc. Mmh. Il y a des cas extrêmement invalidants. Et ces TOC, eh bien, touchent des systèmes cérébraux, sont des mauvais fonctionnements de systèmes cérébraux qui se recouvrent plus ou moins, en partie au moins, avec l'endroit qui était endommagé chez mon voleur de voiture. Et pour répondre un peu à votre question, il y a effectivement, dans des TOC particulièrement sévères, il y a des traitements qui sont des traitements où on implante des électrodes à l'intérieur du cerveau, à demeure, une espèce de pacemaker, dont le but est d'interférer avec le fonctionnement de ces circuits de la motivation. La motivation, c'est-à-dire ce qui vous fait agir.
Laurent Cohen, on a le temps de prendre un dernier patient, si vous êtes d'accord, il reste 2 minutes, est-ce que vous êtes capable ? On reçoit une femme, elle s'appelle Madame L. Et c'est très embêtant parce que quand elle doit faire ça, elle n'arrive pas à le faire. Vous voyez, c'est les gestes qu'elle n'arrive pas à faire.
Alors là, vous faites un geste très simple. Ça, elle était capable de le faire.
Donc je secoue le bras là.
Elle était capable de secouer le bras. Ce que cette dame ne savait pas faire, c'est utiliser les objets. Elle savait, devant une paire de ciseaux, que c'était une paire de ciseaux.
Là, je prends mon mug, par exemple.
À quoi ça servait. Mais une fois qu'elle devait l'attraper, eh bien, elle pouvait parfaitement l'attraper, la paire de ciseaux, s'il s'agissait de la passer d'une table à l'autre, par exemple, entre son pouce et son index. Mais quand il s'agissait de mettre sa main dans les anneaux de la bonne manière, etc., ça, elle en était incapable. Elle ne savait plus comment mettre sa main sur les objets pour les utiliser. Ce qui fait qu'à la phase initiale, après son accident, elle était incapable d'utiliser du papier toilette. Elle était incapable d'utiliser des ciseaux, une fourchette, etc., etc. Un handicap terrible.
Donc elle pouvait plus vivre seule.
Alors qu'elle n'était pas du tout paralysée. Elle avait une force normale, elle pouvait bouger les mains, etc. Mais c'est ce qu'on appelle apraxie, en jargon, c'est encore du grec. Eh bien, elle n'était plus capable de programmer d'une certaine manière ses gestes.
Est-ce que vous avez trouvé une solution pour cette patiente ?
Pas réellement. Les choses se sont partiellement améliorées. Et dans toutes ces situations, en fait, quand il y a des dégâts cérébraux, quand un morceau de cerveau est réellement détruit à la suite d'un accident quelconque, eh bien, il y a deux choses dans la question du traitement. Il y a première chose, est-ce qu'on peut traiter la cause ? Est-ce que s'il y a une tumeur, on peut enlever la tumeur ? Et est-ce que s'il y a un hématome, il faut évacuer l'hématome, etc. Et il y a une deuxième chose, c'est une fois que les dégâts sont faits, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les gens à récupérer ? Et généralement, il n'y a pas de miracle. On peut les traiter avec de la kinésithérapie, de l'orthophonie, de l'ergothérapie, etc. pour essayer d'aider le cerveau à trouver une manière de contourner plus ou moins le problème. Dans certains cas, ça marche assez bien, dans certains cas, ça marche assez mal. Il n'y a pas de traitement miracle.
Merci pour ces consultations, c'était passionnant. Docteur Laurent Cohen, vous publiez. Il y a plein d'autres histoires à découvrir dans ce livre. Le parfum du rouge et la couleur Z, le cerveau en 20 histoires vraies, c'est chez Odile Jacob. À bientôt.
Au revoir.
Merci.
RTL. La curiosité est un vilain défaut. Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.